Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que ça vous est arrivé d'offrir un cadeau sans emballage? Alors, je ne sais pas si c'est un truc peut-être plus d'homme, si on fait un sondage. Moi, j'avoue que je suis extrêmement mauvais pour emballer les cadeaux. Et quand je l'emballe, je suis toujours. J'ai honte. J'arrive pas à me débrouiller avec tous ces pliages, je trouve ça vraiment compliqué. Mais c'est pas pour autant que le cadeau n'est pas fait avec cœur. Et même, je dirais, en fait, ce qui se passe pour moi, et vous me croirez ou pas, c'est que je suis tellement concentré sur le cadeau que ce truc-là, au final, cette broutille de l'emballage, j'y pense toujours qu'au dernier moment. Ah oui, au fait. Puis après, c'est la galère, il faut trouver le scotch, les ciseaux, etc. C'est jamais à sa place. Non, en fait, c'est parce que, en général, je suis concentré sur le cadeau. Et j'y mets mon cœur. Et vous savez, quand je prépare un message, il y a mon cœur qui s'engage dans le message. Et en fait, quand je prépare le message, il y a tout un processus qui se déclenche en moi. Et je me mets progressivement à sentir le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui vient et c'est ça qui me porte en fait dans cette préparation de message et puis quand je le délivre comme maintenant, c'est qu'il y a, je sens le cœur de Dieu et puis qui me dit quelque chose et c'est plein d'amour. Et pour moi, un message, en fait, je le vis comme un cadeau. Et je dis souvent à Dieu, je veux que le message d'abord, je le reçoive moi d'abord, la première personne, et qu'ensuite les autres qui m'écoutent le reçoivent. Et je voudrais vraiment vous dire que ce message et les messages sont des cadeaux de Dieu. Parce que ce n'est pas juste délivrer une connaissance théologique et de doctrine et biblique, mais c'est vraiment faire une démonstration d'esprit et de puissance. Et ça, ce sont des cadeaux. Des cadeaux. Alors, je vous dis tout ça parce que normalement, à Clé, dans nos standards pour prêcher, on doit préparer une introduction qui accroche, etc. Et puis je voulais vous dire, ben, j'ai pas eu le temps parce que je me suis concentré sur le contenu et le contenu m'a vraiment travaillé et j'ai pas eu le temps. Et je présente mes excuses, mais c'est un beau cadeau. Alors, j'ai trois idées à vous partager ce matin. Ouais, j'avoue. Ce matin, je disais à ma femme dans la voiture, je suis embêté, j'ai pas d'intro pour le message. Et c'est elle qui m'a suggéré cette idée. Donc, faut rendre à César ce qui revient à César, n'est-ce pas, hein? J'ai trois pensées, en fait, trois lignes qui me semblent sont cohérentes, connectées, mais trois distinctes. La première pensée, c'est bien sûr, nous sommes le week-end de Pentecôte, et Pentecôte, le Saint-Esprit, et Pentecôte, acte 2. Donc je vous propose de lire un petit texte dans Acte 2. Ça va être ma première pensée sur la venue du Saint-Esprit. Donc en Acte 2, on peut lire que le jour de la Pentecôte, ils, c'était les disciples de Jésus, étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors c'est un événement qui est, souvent on le dit, l'événement fondateur de l'Église, le point de départ. Et c'est vraiment comme un. Vous savez, le pistolet qui est tiré au départ d'une course. Et à partir de ce moment-là, les disciples qui étaient dans un sale état après le départ de Jésus, leur maître, là où ils étaient dans cette phase où tous leurs espoirs s'étaient écroulés, ils ne comprenaient plus rien. Et là, d'un coup, le Saint-Esprit vient et bam, ça s'allume. Et les disciples commencent la course. Pentecôte, le mot Pentecôte signifie 50. Moi, j'aime bien les chiffres. Et en fait, Si on creuse, on voit que 50, ce n'est pas du tout intéressant dans ce contexte. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est 49. Pourquoi? Parce que 49, c'est 7 fois 7. C'est 7 semaines après la Pâque. Bon, c'est une petite parenthèse pour les matheux, désolé. Pour les Juifs, en fait, ce jour-là, et c'est pour ça qu'ils étaient rassemblés à Jérusalem, pour les Juifs, c'était le début de la fête de la moisson. C'était les prémices. Et puis, dans la période qu'on appelle après la fin des derniers prophètes intertestamentaires, entre les deux testaments, ancien et nouveau, il y a une tradition qui s'est installée dans le peuple juif ce jour-là. C'était aussi de célébrer, de fêter le don de la loi au Sinaï. Donc ça s'est rajouté comme sens pour la Pentecôte. Et vous savez que le peuple de Dieu, Israël, était un peuple très centré sur la loi qu'ils avaient reçue par Moïse au Sinaï. Et la loi, ce n'est pas juste les commandements, ce mot évoque pour nous tout de suite des commandements et des ordres, mais c'est beaucoup plus que cela. La loi, c'est vraiment la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu exprimée en des mots que l'homme peut comprendre. Et toute la vie du peuple de Dieu à l'époque, Israël, était centrée sur la loi. Mais ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su capter le plus important dans la loi, qui est l'auteur lui-même de la loi, la personne qui était derrière la loi. Ils se sont focalisés sur le texte, mais non sur l'auteur. Ils connaissaient les mots, ils connaissaient les paroles de cette loi, et même très très bien, mais pas le cœur de Dieu. Et ils sont passés à côté. Ils ont glissé d'une révélation à ce qu'on pourrait appeler une religion. Alors moi, j'ai du respect pour ce terme de religion, il est d'ailleurs dans la Bible. Donc c'est religion dans le sens négatif. Ce truc finalement très humain, où on croit vivre quelque chose avec Dieu, mais en fait, on vit quelque chose d'humain, entre humains. Une croyance. Quelque chose où il n'y a pas ce côté divin, ce côté transcendant, ce côté passionnant, divin. Et puis, cette religion où, du coup, qui se résume à une suite, une série de « il faut » et « il ne faut pas ». Il faut et il ne faut pas. Et c'est à ce moment-là, dans un peuple qui avait cette conception de Dieu, que Jésus est arrivé, donc avant la Pentecôte. Et quand Jésus est venu, il a révélé Dieu. Il a révélé la personne de Dieu. Et surtout, il a révélé son cœur. Et le cœur de Dieu est plein d'amour. Et c'est ça que Jésus a montré. Et c'est ça qui a tant touché les gens. C'est de découvrir que non seulement Dieu dit des belles choses, mais Dieu aime profondément les hommes. Et cette révélation a été bouleversante. Et quand Jésus est venu, les gens se déplaçaient de loin, les foules ne voulaient plus le quitter, les gens parcouraient des kilomètres et des kilomètres à pied pour venir le voir, parce qu'il y avait quelque chose de merveilleux dans la personne de Jésus. Il connaissait plein de choses, il connaissait toute la loi, plein de choses sur Dieu, mais ils n'avaient pas connu Dieu. Et quand Jésus arrive, il leur fait connaître ce Dieu-là. Et vous savez, Jésus n'a jamais critiqué la loi. Il a critiqué l'utilisation de la loi, la mauvaise compréhension de la loi. Mais il a dit, la loi, elle est bonne, elle est vraiment de Dieu. Et il a rendu la loi vivante. Il a rendu la loi passionnante. Il a rendu la loi vérité. En fait, quand Jésus parlait, la loi devenait vérité dans le cœur des gens. Vous savez, on peut prendre la loi, on peut écouter les enseignements, on peut écouter ce que dit la Bible comme des codes religieux, des choses, des préceptes auxquels on essaie d'appliquer son cœur. Mais tant que ce n'est pas devenu vérité pour toi, ça n'a pas vraiment de puissance pour changer ta vie. Ça n'a pas vraiment de puissance pour impacter profondément ton âme et te combler et te révéler l'amour et la puissance du Dieu vivant. Alors quand Jésus vient et dit, enseigne, c'est ça qui se passe dans le cœur des gens. Et ils étaient étonnés, parce qu'ils disaient des choses que tout le monde connaissait, mais ils le disaient avec autorité. Il y a quelque chose qui se passait dans le cœur. Ça devenait vivant. Donc Jésus, on le sait, il est venu, il a parlé 3 ans, Il a passionné les gens. Les gens se faisaient des déplacements, donnaient tout pour aller voir Jésus. Et puis, Jésus, un jour, a dit quelque chose à ses disciples de complètement étonnant. Et quand je lis ce passage, je pense toujours à Gainsbourg. J'aime bien Gainsbourg. Alors, un personnage très controversé, il a fait des choses, il n'est pas forcément bon exemple, bien sûr, mais il a un côté génial que j'aime. Et il y a une chanson qui dit « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Moi, j'aime bien cette association de mots « Je viens pour te dire, ben, je pars ». Et Jésus, à un moment, il rassemble ses disciples et il leur dit « Maintenant, je m'en vais ». Ah ! Les disciples, ils vivaient des choses tellement passionnantes avec Dieu, avec lui, et lui, il dit « Je m'en vais ». Et vous êtes remplis de tristesse. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclète, celui qui encourage, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, Jésus annonce à ses disciples qu'il va s'en aller, mais qu'il va envoyer comme un remplaçant le Saint-Esprit. Le paraclète. C'est intéressant d'ailleurs de voir que la personne du Saint-Esprit est présentée d'abord comme celui qui encourage, comme celui qui conseille, comme celui qui console, comme un avocat. C'est un mot assez riche, ce mot paraclète qui est utilisé ici. Alors, on peut imaginer, hein, à votre avis, les disciples, quand ils ont entendu Jésus dire ça, à mon avis, ils n'ont pas compris. À mon avis, ils n'ont pas voulu le croire. Pas possible. Pas possible. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que Jésus, qui était très conscient de ce qu'il faisait et de l'impact qu'il avait dans les cœurs, de ce succès phénoménal qu'il avait auprès des gens, c'est quand même étonnant de dire « Il vous est avantageux que je parte ». Et c'est ça qui est dur à croire. Et en fait, quand il dit cela, Jésus affirme que ce qui vient, le Saint-Esprit, sera encore plus grand et plus merveilleux. Ce matin, on a eu une louange vraiment magnifique, puissante. Et cette louange disait « Jésus est au centre ». Et Jésus a expliqué ce que va faire, ce que ferait le Saint-Esprit une fois qu'il serait venu. Il a dit « Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'expliquera ». Il vous parlera de moi. Il vous révélera. Et on comprend que finalement, Jésus était conscient que ce qu'il amenait, c'était dommage de le réserver juste à un coin de la terre. Il fallait que sa personne, qui est la personne la plus merveilleuse que la terre ait portée, Jésus est la personne la plus merveilleuse, l'être humain le plus merveilleux que la terre ait porté. C'était dommage qu'il ne soit juste que pour une époque dans l'histoire et pour juste un peuple. Il fallait qu'il soit connu, qu'il soit rencontré, qu'on puisse discuter avec lui, l'entendre et l'écouter, être touché par lui sur l'ensemble du monde, l'ensemble de la planète et dans toute l'histoire. Et c'est exactement cela que le Saint-Esprit fait. Il vient pour parler de Jésus. Il vient pour permettre à l'être humain, à chacun de nous, de rencontrer ce Jésus et de tisser avec lui une relation vivante. Et aujourd'hui, c'est possible. Jésus n'est pas juste cet homme qui est mort à la croix il y a 2000 ans. Jésus est vivant aujourd'hui. Et on peut le rencontrer aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est là et il nous le fait connaître. Et le Saint-Esprit n'a de cesse de nous attacher à ce Jésus pour qu'il soit au centre. Pour qu'il soit au centre. Et nous le faire connaître. Il y a les disciples qui disaient, après la venue du Saint-Esprit, ils ont dit, avant on connaissait Jésus dans la chair, mais maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ils le connaissent et nous le connaissons en esprit. Et c'est une connaissance qui est beaucoup plus puissante qu'une simple relation humaine. Alors, le Saint-Esprit, promis par Jésus, promis par le Père, est venu à la Pentecôte. Et pour moi, le don de la loi, ce jour-là, que Dieu ait choisi exprès ce jour où on célèbre le don de la loi pour donner le Saint-Esprit, ce n'est pas un hasard, mais c'est très cohérent au contraire. Mais le Saint-Esprit, le fait de donner le Saint-Esprit montre que ce qui est plus important pour Dieu, c'est que nous ayons une relation avec lui. Parce que quand on donne une loi, on donne un texte écrit. Et donc, ça sollicite notre intelligence, ça sollicite notre raison, ça sollicite nos capacités cognitives. Mais quand il donne le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient. Et cette personne nous invite à une relation. Et on voit qu'avec cela, Dieu complétait son don aux hommes. Et il voulait que cette loi, qui peut être une loi morte, quelque chose, juste un texte extérieur à nous, puisse être expliquée par une personne qui est le Saint-Esprit. Et vous savez, il y a des magnifiques images pour parler du Saint-Esprit. Cette venue du Saint-Esprit, elle a déjà été préfigurée, annoncée par cet événement juste après le déluge. Quand il y a l'arche qui flotte sur l'eau et puis il y a Noé qui libère une colombe pour que cette colombe recherche la terre, la nouvelle terre, celle qui est après le déluge. Et cette nouvelle terre représente les hommes nés de nouveau par le sacrifice de Jésus-Christ. Et cette colombe, c'est une image souvent utilisée dans la Bible pour parler de l'Esprit. Et le Saint-Esprit cherche cette terre nouvelle, les terres que nous sommes, des cœurs nouveaux, renouvelés, pour se poser comme cette colombe. Je me disais ce matin dans cette salle, et sans aucun jugement ni critique, c'est juste un fait, on pourrait faire deux groupes dans cette salle. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et il n'y a pas de problème de ne pas le connaître encore. Le problème, c'est de ne pas vouloir le connaître. Alors, si vous voulez suivre Dieu ce matin, si vous êtes là, c'est vous êtes intéressé par Dieu, déjà, je pense, sauf si on a forcé à venir. Parfois, c'est le cas pour les enfants, mais... Si vous voulez suivre ce Dieu, si vous voulez le connaître, si vous voulez marcher avec lui, rencontrez le Saint-Esprit. Imaginez-vous au temps de Jésus. Vous avez entendu parler d'un Jésus qui fait des miracles, qui fait des choses extraordinaires, et quand il parle, les gens sont subjugués. Eh bien, qu'auriez-vous donné pour aller voir ce Jésus, si vous étiez à l'époque de Jésus? Je pense qu'on aurait tout donné. Je pense vraiment qu'on aurait vraiment investi pour tout donner. Ben imaginez que le Saint-Esprit, c'est encore mieux. Le Saint-Esprit est vraiment la personne à rencontrer. Il est celui qui rendra vivant tout ce qui est de Dieu en vous. Et sans le Saint-Esprit, nous risquons de glisser d'une révélation à une religion, c'est-à-dire quelque chose qui est sans vie, qui est mort, et qui peut même être une suite, une série de « il faut, il ne faut pas », un légalisme. Et puis pour vous qui connaissez le Saint-Esprit, vous le savez intimement, eh bien je voudrais vous encourager, nous encourager, en vous disant « honorez-le ». Je crois que c'est le bon terme. Honorons le Saint-Esprit en nous. Il vit en nous, il habite en nous. Je me dis, dans la vie chrétienne, il y a plein de magnifiques révélations, il y a plein de choses précieuses. Mais souvent, ces choses précieuses, on les range. Vous savez, quand on reçoit un beau livre, on est content, puis on le met dans la bibliothèque et on ne le sort plus. Et il est là, comme dans le décor, mais finalement, on ne vit pas grand-chose avec ça. Que vivons-nous? Que vis-tu avec le Saint-Esprit? Vraiment, vraiment, honnêtement. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne. Et le pire pour une personne, c'est d'être ignoré. Surtout pour une personne qui nous aime, le pire, c'est de l'ignorer. Et le Saint-Esprit est toujours présenté comme une personne très sensible. Et je crois, moi je sais pour ma part, que trop souvent, j'ai cette tendance à ignorer. Si on devait résumer finalement, que veut le Saint-Esprit avec nous? Qu'est-ce qu'il veut le Saint-Esprit avec moi? Je crois que comme toute personne, il veut être aimé. Il veut que nous l'aimions. Je crois que c'est ça. Donc, c'était mon premier point. En ce jour de Pentecôte, où nous, on se rappelle le don de la loi et le don du Saint-Esprit, je voulais vraiment nous encourager à prendre du temps avec le Saint-Esprit. Lui qui nous centre autant sur Jésus. À prendre le temps avec lui et de passer un temps pour l'amour. Ma deuxième pensée ce matin, c'était de nous poser la question. Vous savez que nous sommes dans la série sur le travail. Une réflexion sur finalement à quoi on sert, à quoi sert notre vie, à quoi sert ce que nous faisons tous les jours de la semaine, notre travail, notre emploi, ce qu'on fait avec nos dons, nos talents. Et je me disais, le Saint-Esprit est notre travail. Point d'interrogation. Alors il y a un texte qui m'a inspiré, qui est bien connu. Si tu peux passer la slide suivante. Je pense que tout le monde l'a lu au moins une fois, parce que comme c'est le tout début du livre, vous savez, dans un livre, on lit toujours les premières pages, puis des fois on saute, puis on lit la fin. Mais au moins ça, je suis sûr que tout le monde l'a lu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis on connaît la suite. Après, il y a les astres, il y a les mers, il y a les plantes, il y a les animaux. Tant de choses merveilleuses que Dieu crée. Et dans ce passage, on voit au début qu'il y a la matière, il y a quelque chose d'informe et de vide, le chaos, le tohu-bohu en hébreu. Donc quelque chose qui n'est pas fini, quoi. Il y a du potentiel, mais ce n'est pas fini. Et puis apparaît tout de suite cette personne, ce personnage du Saint-Esprit, ici sous la forme du vent, c'est le mot dans le texte, qui plane au-dessus de l'eau. Et alors, c'est à ce moment-là, une fois que tous ces acteurs sont en place, la matière informée vide, l'esprit sous forme de vent, que Dieu se met à parler. Et on voit que quand Dieu parle, avec ces éléments-là, quelque chose se crée. Les choses jaillissent et les œuvres de Dieu surgissent, les merveilles de la création. Et ce sont des œuvres de Dieu. Cela se répète dans l'histoire, ce même scénario avec les mêmes acteurs. Un peu plus loin, on a Marie, petite Marie, jeune fille, fiancée à Joseph. Et puis un ange lui apparaît et lui dit « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. » Et c'est le Christ, le Messie, qui viendra dans ton sein. C'est Jésus. Et ce Christ, ce Messie, c'est la parole. C'est la parole incarnée. Et on voit là donc le même processus, Marie, avec toute son humanité, sa simplicité, même sa naïveté, sa candeur, Marie accepte et le Saint-Esprit la couvre et la parole s'incarne en elle et devient un être humain, Jésus. Et là encore, les prophètes qui ont annoncé cela, Ésaïe notamment, ont bien insisté sur un point, elle devait être vierge, pour bien montrer, encore une fois, que c'est une œuvre de Dieu. Il n'y a rien d'humain dans tout cela. Œuvre de Dieu, pure, 100%. Ensuite, un peu plus loin, on voit Jésus qui se fait baptiser. Et quand il se fait baptiser, le Saint-Esprit vient sur lui sous forme d'une colombe. Et puis, à partir de là, il y a quelque chose qui s'active en Jésus et lui, la parole, commence son ministère et il commence à faire des œuvres étonnantes, magnifiques, des œuvres de Dieu parce qu'elles détruisaient les œuvres du diable, ces œuvres. Donc c'était vraiment des œuvres de Dieu. Donc à chaque fois, ce que je vois dans ces histoires que je vous donne, c'est qu'à chaque fois, il y a les mêmes éléments. Il y a un être humain, il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose de terrestre, il y a quelque chose de simple. Et puis il y a le Saint-Esprit, et dans ce contexte, la parole vient, et boum, ça produit une œuvre de Dieu. Il y a quelque chose de la parole qui s'incarne dans notre réalité et qui vient bouger la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. Il y a les disciples, probablement déprimés, probablement perdus. Ils ne comprenaient plus rien. Ils persévéraient dans la prière, mais ils ne devaient pas en mener large. Ils ne comprenaient plus ce qui se passait dans leur cheminement. Et là, c'était un peu comme des terres informes et vides. Il y avait probablement une sorte de forme de chaos en eux, dans ces disciples. Et le Saint-Esprit vient. Il se déverse sur eux. Et à partir de ce moment-là, la parole qu'ils avaient entendue par Jésus pendant toutes ces années, qu'ils avaient entendue, qu'ils n'avaient pas pleinement comprise, cette parole entre en action et produit à travers les disciples des œuvres, des actes, à tel point que Luc a intitulé son livre « Les actes ». Des actes, des œuvres. Et là encore, c'est cet ingrédient de l'Esprit Saint plus la parole qui produit des actes de Dieu. Et c'est cela que je voulais apporter ce matin dans notre réflexion sur le travail, c'est que ces œuvres que Dieu a placées en nous et que nous exerçons, nous voulons faire dans notre emploi, là où nous sommes et à travers notre vie, eh bien ces œuvres sont exactement ce phénomène-là. C'est la parole en nous, c'est le Saint-Esprit en nous et qui produisent des œuvres de Dieu à travers notre vie. C'est vraiment le même processus. Et ce que je trouve intéressant, c'est de réaliser finalement que nos œuvres, que nos actes, que ce que nous faisons, même dans la simplicité du quotidien, dans notre travail, parce qu'on dit « faites tout pour la gloire de Dieu ». Donc tout ce que vous faites, tout ce que je fais dans mon quotidien, que je fasse des maths, j'enseigne les maths, ou je prêche, ce sont des œuvres de Dieu, parce que je les donne à Dieu, parce que je veux les faire inspirer par Dieu. Eh bien, nos œuvres, en fait, ne sont pas vraiment nos œuvres, mes œuvres, mon œuvre de moi. Nos œuvres sont en fait les œuvres de Dieu à travers nous. Et c'est comme un cadeau de Dieu, comme il met Jésus dans le sein de Marie, nous enfantons nos œuvres. Il y a quelque chose en nous qui se crée comme en chimie, on est peut-être la bouteille, on met Dieu vers ses ingrédients et puis ça se fait en nous et nous enfantons l'œuvre, mais c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. C'est une œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit, il y a plein d'exemples dans la Bible où ce petit garçon qui amène 5 pains et 2 poissons, ou ses serviteurs qui remplissent dans le mariage de Cana une jarre d'eau. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur humanité, avec leurs efforts, mais Dieu, à travers cela, a fait son œuvre. Et c'est ce qui se passe pour nous. Je le crois. Donc de réaliser que nos œuvres sont d'origine céleste et que ce que nous faisons à travers notre emploi, ce que nous ferons dans notre vie, ce qui est devant nous, ce ne sont pas des œuvres humaines, ce ne sont pas des œuvres juste d'êtres humains très 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 motivés et qui aiment Jésus. C'est beaucoup plus que cela. Dans leur nature même, les œuvres que nous portons et que nous faisons et que nous ferons sont des œuvres du ciel, des œuvres de Dieu sur la terre. La conséquence, la concrétisation du Saint-Esprit et de la parole en nous. Nous portons quelque chose qui nous dépasse. Je porte, vous portez quelque chose qui vous dépasse. Et à cause de cela, je pense que cette série sur le travail ne doit pas juste être une série qu'après, pareil, on range dans la bibliothèque. Ça doit rester présent dans notre cœur pour dire, mais on a une responsabilité. On a une merveilleuse responsabilité. C'est un cadeau de faire cela, de pouvoir contribuer, de pouvoir être, comme dit la Bible, participant de la nature divine. Et à cause de cela, comme le disait très bien Fabienne, d'ailleurs je voudrais souligner sa prédication de la semaine dernière, moi j'ai trouvé ça très très bon. Je lui ai dit après, et je le pensais en fait, je me disais, une prédicatrice est en train de naître. Eh bien, allez, j'ai perdu mon fil. Non, il y en a qui suivent, hein, c'est bien. Merci, ça m'encourage. Je ne sais plus, c'est pas grave. Donc ça, c'était ma deuxième idée, de nous encourager à voir que finalement tout est cohérent et que le don du Saint-Esprit a pleinement sa place dans nos œuvres. C'est même une clé. Et que sans le Saint-Esprit, nos œuvres ne seront que des œuvres peut-être très très bien, mais humaines. Et ce n'est pas ça qui change le monde. Ce qui change le monde, c'est le ciel. Quand on prie « Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre », je crois que Dieu répond, et qu'il répond à travers d'œuvres, d'actes, comme les actes. Ces actes qui sont le ciel à travers nos vies, et qui viennent, et quand on le fait, ça change les choses. Et vous savez, on peut éduquer ses enfants. Par exemple, moi, pendant des années, j'étais homme, papa à la maison, et j'ai passé du temps avec mes enfants. J'ai eu ce cadeau-là. Et dans l'éducation de nos enfants, il y a tellement de perles du royaume de Dieu dans les choses du quotidien qu'on peut faire, prendre soin. Donc, c'est pas besoin de faire des choses spirituelles, entre guillemets, pour faire des œuvres de Dieu. C'est simplement que nous ayons cette conscience que ce que nous faisons, Dieu met des choses dans cela, des graines du royaume, de la puissance. Et ça a un impact, vraiment. Qu'on fasse la vaisselle, qu'on balaye, comme ce bel exemple que Fabienne donnait la dernière fois, quand on balaye vraiment avec tout son cœur, avec cette conscience qu'on le fait pour Dieu, et Dieu fait des choses magnifiques à travers cette simplicité. Que cela nous encourage. Mon troisième et dernier point, c'est dans les textes sur le Saint-Esprit, et il y en a un que j'aime particulièrement méditer, c'est le 1 Corinthiens, les premiers chapitres, de 1 à 3. Il y a vraiment quelque chose de puissant dans ces passages-là. Et je vais le lire, 1 Corinthiens 3. Donc c'est Paul en fait, qui parle du Saint-Esprit, qui parle de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et puis, il continue son exhortation. Et là, il dit quelque chose qui est saisissant. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » En fait, quand Paul parle, juste avant, il parlait d'une sagesse. Et vous savez, quand Paul, il est enflammé dans ses paroles, il est vachement motivant, en fait. Hein. Il est assez contagieux dans ses paroles. Et Paul, il parlait d'une sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Il disait ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes et que Dieu a préparé pour vous qui l'aimez. Dieu nous le révèle par son esprit qui sont de tout les profondeurs de Dieu. C'est vraiment beau. Et puis, juste après, comme une douche froide, il dit « Mais je ne peux pas vous le dire. J'ai reçu des révélations puissantes. Il y a une sagesse mystérieuse à portée de main que Dieu veut nous révéler par son esprit, pardon. Et vous n'êtes pas assez mature pour les recevoir. » Vous imaginez sa frustration ? Vous imaginez sa déception ? Et là, on sent, il ronge son frein, quoi. Il dit « Mais Corinthiens, bougez-vous !» Et pourtant, ces Corinthiens, dit hein, au début, vous êtes enrichis de tous les dons, en particulier ceux de la parole et de la connaissance. Il ne vous manque aucun don de Dieu. Donc ils étaient quand même pas mal, ces Corinthiens. Et pourtant, il leur dit ça. Vous êtes charnels et je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels. En fait, dimanche dernier, au temps de prière, Rodrigue a dit quelque chose dans le temps de prière, qui m'a percuté. Au début, je n'ai même pas compris pourquoi il disait ça à ce moment-là, mais ça m'est resté et ça m'a travaillé. Et il a dit, mais il faut qu'on avance, il faut qu'on grandisse en maturité, il faut arrêter de se contenter des petits légumes et de ces vérités qui sont fondamentales, mais de se contenter de ces vérités fondamentales. Il faut qu'on aille plus loin. Il n'a pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que ça voulait dire, hein. Marie-Hélène confirme. Et ça m'a travaillé, ça. Et je crois, en fait, que Dieu nous demande, là où on est dans notre saison d'église, de clé, à chercher à devenir, à prendre ces choses révélées, à prendre ces révélations que Paul voulait donner aux Corinthiens et qu'il n'a pas pu donner, à chercher à grandir, à chercher à devenir plus mature, à chercher ces choses qui sont plus élevées. Cette sagesse mystérieuse et cachée que Dieu veut révéler à ceux qu'il aime et qui le fait par l'Esprit. Quand Jésus parlait du Saint-Esprit, quand il disait « Il va venir », il a dit à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. » Dans le sens, littéralement, c'est « Vous ne pouvez pas les porter. Vous n'avez pas la stature pour cela. » Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et je crois, je sais, et c'est finalement ce que j'ai le plus à cœur ce matin, de nous dire, c'est que Dieu veut nous amener plus loin. Et que pour cela, il nous demande de chercher à devenir plus mature. Parce que la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu et les actes qui découlent de cette parole dépend de notre vie avec le Saint-Esprit. En fait, les trois choses sont liées. Il nous faut monter d'un niveau dans l'esprit pour monter, accéder à un niveau d'intelligence dans la parole de Dieu, pour monter d'un niveau dans nos œuvres. Tout est logique, je trouve. Et je constate avec vraiment joie que ce que nous vivons à Clé en ce moment, ces temps de prière, cette soirée de prière, cette nuit de prière qui rassemble quasi 80 personnes, c'est un signe tellement encourageant. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas le fruit d'une super com ou des leaders. En fait, je crois que... Mais, vous savez, comme moi, je le vis en tant que leader, je me dis, oh là là, ça pousse hein, derrière. Hein. Il faut que je sois au niveau, hein, parce que sinon, je ne vais pas suivre. Ça me motive encore plus. Il y a quelque chose qui se passe, Dieu fait quelque chose de fort, il nous fait avancer et je crois qu'on est vraiment dans cette saison et pour que cela se fasse, il nous faut devenir plus spirituel. Comme le dit Paul, il nous faut devenir ces hommes et ces femmes spirituels. Êtes-vous une femme ou un homme spirituel ? L'êtes-vous ? Est-ce que vous oseriez répondre à cette question ? L'homme spirituel a toujours faim. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Suis-je un homme spirituel ? On sait que c'est la bonne réponse, donc on va dire oui. Mais vraiment, dans ton cœur, quelle est ta conviction ? L'homme spirituel a toujours faim. Il mange et il grandit. Il mange la parole, il est capable de manger la parole et ça le fait grandir. Et il devient un homme qui agit et son action a de l'impact. L'homme spirituel a toujours faim. Il y a un feu en lui et ce feu, il veut le nourrir. Il doit le nourrir, c'est plus fort que lui. Le Saint-Esprit ne laisse pas stagner un homme spirituel. En nous, il y a deux adversaires à l'homme spirituel. Il y a l'homme naturel, qui n'est pas forcément mauvais. L'homme naturel, dans ce que dit Paul, c'est l'homme qui est livré à lui-même. C'est l'homme sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit. C'est cette partie de nous qui est juste terrestre. Et cet homme naturel, souvent, il se laisse guider par ses cinq sens, et puis par l'intelligence, la raison, et puis par les émotions aussi. Et le problème de cet homme naturel, c'est que les voies de Dieu, il ne les comprend pas. Et même les voies de Dieu, il les trouve folles. Par exemple, moi, un exemple qui me parle, que je peux vivre, quand je donne ma dîme, il y a quelqu'un en moi qui me dit « Mais t'es fou, regarde tes comptes, tu sais compter ?» Là, l'intelligence met en route, oui, oui, c'est négatif en fait. T'es fou. Donc ça, c'est l'homme naturel. Il réagit. Et puis, Il y a plus grave que ça, enfin plus grave, peut-être l'autre côté de l'homme naturel, c'est le charnel. Alors lui, le charnel, c'est carrément un être malade du péché. Il est voué au péché, il ne peut pas s'empêcher. Et lui, il s'oppose toujours systématiquement à Dieu. Et cette troisième partie qui est en chaque chrétien, c'est l'être spirituel, qui est né à partir du moment où Dieu l'a fait naître de nouveau. Et cet être spirituel, en fait, c'est lui qui est en connexion, qui est la personne en nous, l'être en nous, cette partie de notre être, qui est adaptée pour être juste branché sur Dieu. Parce que Dieu est un esprit et nous sommes un esprit, et c'est comme ça qu'on se comprend. Et c'est lui qui est aux commandes du chrétien, en théorie. Après, il y a la pratique. Mais en théorie, c'est ça, ça marche comme ça. Et donc, le challenge pour nous, c'est de devenir de mieux en mieux spirituel. Et que l'homme, la femme spirituelle en toi, commande en toutes circonstances. Et quand ton homme naturel verse dans la déprime et veut déprimer, dire regarde, tout ça, tant de raisons de déprimer. Ce sont peut-être des choses vraies, hein. Et l'homme spirituel dit foi en Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme écoute ce que dit ton Dieu. Et agit en conséquence. Et vous voyez que là, il y a des prises de position à l'intérieur. Exercer son esprit à commander les choses. Et là, déjà, il y a tout un champ où on peut progresser. Chacun. Tout un champ de progression. Alors, comment devenir spirituel ? Comment devenir spirituel ? Quand je suis arrivé à Clé, il y a quelques années, j'avoue que sur cette question-là, es-tu un homme spirituel ? J'aurais clairement répondu non. J'avais vécu des événements qui m'avaient mis un doute en fait sur ça. Et je me sentais pas du tout un homme spirituel. Et j'étais même un peu complexé dans notre milieu chrétien, on vit la vie de l'esprit, les choses comme ça, d'être, je me sentais un peu comme l'intello. Celui qui a toujours besoin de réfléchir et qui se pose des questions que les autres ne se posent pas. Et... Vous voyez, je n'étais pas vraiment dans le style. Et franchement, j'étais complexé avec ça. Et j'étais même bloqué. Et ce qui s'est passé, c'est que Rodrigue, d'entrée de jeu, une des premières, très rapidement, il a affirmé sur ma vie. Il m'a dit, il me regarde droit dans les yeux, hein, vous savez, Rodrigue, quand il regarde droit dans les yeux, puis il vous dit un truc là, comme ça, là, ça sort de lui. Tu es un homme spirituel. Et c'était vraiment inspiré. C'était vraiment une parole de berger. Quand il a dit ça, ça m'a relevé. Il y a quelque chose en moi qui s'est réveillé. Il y a une vérité qui remonte à la surface de mon cœur, qui m'a dit, mais c'est vrai. Mon être intérieur reconnaissait que c'était vrai. Il disait, il l'affirmait sur ma vie, il l'a affirmé, tu es un homme spirituel. Et en fait, à la question comment devenir spirituel, ben c'est ça que j'aimerais vous dire. C'est vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Pas à cause de ce que vous arrivez à faire, à cause de votre spiritualité Superman chrétien, parce que vous êtes nés de Dieu. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels parce que vous êtes nés de Dieu, parce que le Christ vous a fait vivre et que son esprit habite en vous. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Alors active cette vérité en toi. Et la clé, c'est la foi. C'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, en fait, est une conséquence. Tu peux prier, tu peux jeûner, etc. Mais si tu as une foi toute petite, et que tu jeûnes et tu pries, etc., ça aura peu d'impact. Mais si tu as foi que tu es un homme spirituel et que sur cette foi-là, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, tu adores, etc., tu fais ces choses que font, parce qu'ils ont, ils sont en vie, les hommes et les femmes spirituelles, il y a un impact à cause de ta foi. Alors, aie foi que tu es un homme et une femme spirituelle. Et cela te permettra et nous permettra d'avancer dans la parole de Dieu et d'avancer, de progresser dans cette C'est cette sagesse, ces mystères que Dieu veut nous révéler et que Dieu veut mettre en nous pour nous enfanter et produire des œuvres. Et il y a ce magnifique verset, je terminerai par là, où Paul dit en Romains 8, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et vous savez, les puissances spirituelles, elles observent l'Église. Et elles sont étonnées, elles sont impressionnées de voir la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu à travers l'Église. Mais quand ils regardent l'Église, ils ne regardent pas les dénominations, ils ne regardent pas les organisations d'Églises locales. Ce qu'ils voient, c'est des enfants de Dieu. Ce qu'ils voient, c'est des enfants de Dieu qui se lèvent. C'est des hommes et des femmes de l'Esprit qui se lèvent. Et c'est ça la révélation des fils de Dieu dont parle Paul. C'est ces hommes et ces femmes qui ont compris leur nature et qui se lèvent pour vivre leur nature, des hommes et des femmes de l'Esprit. Paul dit, si vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. C'est là notre nature. Nous sommes ces enfants-là. Alors la Pentecôte, eh bien c'est ces disciples qui ont, alors pour eux c'était d'un coup, bam, ils ont basculé, pour nous aussi ça peut être d'un coup, ils ont basculé du naturel au spirituel et ils sont devenus ces fils et ces filles spirituels et on voit ce que ça a produit. Ça a embrasé le pays et les actes de Dieu merveilleux ont découlé et ça a changé le monde. Ça a changé le monde. J'ai participé à la nuit de prière. C'était une première fois que je priais toute la nuit comme ça. Ouais, j'ai tenu. Et dans la nuit de prière, à un moment, j'avais cette pensée que Dieu se lève quand ses enfants se lèvent. Et que Dieu veut se lever, mais qu'il attend que nous, on se lève. Et je crois que c'est vraiment ça l'appel pour Clé aujourd'hui. C'est lève-toi. Lève-toi davantage. Lève-toi davantage et tu vas voir ton Dieu te lever. Son Dieu se lever sur Montpellier, sur la région. Amen.